Donc je me répète, Sonia Sadoun, je suis médecin donc au SAMU de Nancy depuis une douzaine d'années. J'ai l'honneur d'avoir été chargée par le docteur Chouyed, qui a eu quelques impératifs aujourd'hui importants, de vous rencontrer et d'essayer de discuter, vu qu'on n'est pas en effectif énorme. On va probablement pouvoir discuter un petit peu de nos pratiques. Et puis, je vais vous présenter un petit peu, forcément, un regard un petit peu biaisé, puisque c'est le regard de quand ça ne marche pas. Donc, je vous demande d'emblée de ne pas m'en vouloir. Et surtout, d'essayer, ensemble, de revoir ce qui peut poser souci. Et puis, d'une part, dans la prise en charge de la douleur thoracique. Et puis, par ailleurs, ce qui marche. Et puis également, ce qui est recommandé. Je vais essayer de replacer simplement la série nancéenne. Il se trouve que depuis 2002, au SAMU de Nancy, nous avons été assez précurseurs dans l'utilisation de médicaments dont vous avez peut-être entendu parler, que sont les anti-GP2B3A. Ça s'appelle apsiximab. Alors, pour ceux qui ont reçu quelques courriers de notre part, pour nos patients qui ont un infarctus, eh bien, ils ont entendu parler de ces molécules-là. Du coup, nous avons effectivement une grande série avec les cardiologues de Brabois qui nous a permis effectivement d'être très présents dans beaucoup d'instances décisionnaires, de congrès, de sociétés scientifiques concernant les syndromes coronaires aigus, pour nous sur la prise en charge préhospitalière, mais également l'interface, les réseaux avec d'une part, d'un côté la médecine de ville, c'est-à-dire l'amont pour nous, et puis la médecine hospitalière, et en fait le retour à la médecine de ville avec tout ce qui est prévention secondaire. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on va essayer de placer cette conférence. Je vous remercie de vous être déplacé pour la toute première à 9h. Et puis on essaiera de mettre un petit peu de place à la discussion au fur et à mesure de l'énoncé. Donc pour placer un petit peu notre discussion, on abordera un petit peu les points suivants. Sachant que pour la plupart, ils ont été en fait décidés avec des médecins de ville avec lesquels nous fonctionnons, en particulier par exemple les médecins Medigard au sein de la permanence des soins. Ces points ont été un peu aussi déterminés par une thèse récente du docteur Daguerre concernant les prescriptions de troponine en ville. Encore une fois, je vous rappelle que nous avons la version biaisée, c'est-à-dire que nous, on a quand ça ne marche pas. Donc, je suis vraiment curieuse de pouvoir discuter avec vous, en tout cas, de ces problèmes. Donc, d'une part, l'épidémiologie, l'évolution des syndromes coronaires, la physiopathologie essentiellement clinique, il ne s'agit pas non plus de faire de la pharmacologie poussée aujourd'hui. Des petits rappels sur toutes les nouvelles classifications d'SCA. À chaque recommandation de la Société européenne, vous avez une nouvelle classification. On va essayer juste de se mettre au point pour savoir de quoi on parle. Et puis ce qui est un petit peu le cœur de cet exposé, à savoir l'appel pour douleur thoracique. Que faire? Comment y répondre? Comment se positionner? Pareil, une fois qu'on y est, une fois qu'on est auprès du patient, l'intérêt du test à la trinitrine, alors quand on est auprès du patient ou dès l'appel téléphonique, on va pouvoir en discuter. Alors la troponine, c'était ça la thèse. Prescrire ou ne pas prescrire la troponine, un dilemme auquel j'aimerais qu'on puisse à la fin répondre un petit peu de la même façon. En tout cas, on va en discuter. Et puis l'intérêt des filières. Hein, depuis l'appel du patient, le rôle du médecin généraliste autour de cette prévention primaire, la filière des urgences SAMU et puis cardiologique, qui doivent être discutées en amont, et puis le retour par la prévention secondaire. Je vous donnerai un petit mot sur les stratégies de reperfusion, que vous ayez une idée un petit peu de ce qu'on peut faire et de ce qui est proposé aux malades. En prévention secondaire, je pense que vous y connaissez mieux que moi. Je ferai quelques petits rappels, simplement. Donc un petit mot simplement d'épidémiologie pour vous savoir qu'en gros, les syndromes coronaires aigus ST+, on reverra tout à l'heure les définitions, les syndromes coronaires aigus ST+, ce qu'on appelait de mon temps y compris l'infarctus, représentent finalement 47 000 décès annuels. Soit en gros 9,4% des infarctus décèdent. Ça inclut l'ensemble des infarctus, quel que soit le moment où ils sont vus, intra et extra hospitaliers. Ça inclut des décès immédiats, voire avant qu'on les prenne en charge, et également des décès à distance de l'infarctus. En gros, c'est le décès à 30 jours maxi, lié immédiatement à l'infarctus. Ça n'est pas anodin. De la même façon, les syndromes coronaires aigus, l'ensemble de ces syndromes coronaires aigus représentent 100 à 150 000, 100 à 150 000, donc SCA, par an en France. En gros, vous avez 2/3 de non-ST+, contre 1/3 de ST+. On a mis en place un registre lorrain qu'on a quitté il y a maintenant un an. Donc, c'était le registre des SCA ST+, qui avait comme porte d'entrée, finalement, les appels au 15, et puis les services d'urgence. Ce registre a retrouvé 527 infarctus pour la Lorraine sur un an. Ce registre a été poursuivi jusque 2010 et puis la lourdeur des choses a fait que le registre est abandonné, mais qu'on continue et on poursuit des études à propos d'un jour très régulièrement. Sachant qu'initialement, on voulait simplement avoir une idée de l'épidémiologie et puis on est en train de pousser pour que nos journées à propos d'un jour en Lorraine sur le SCA puissent aboutir finalement aussi à un contrôle de la prise en charge, de l'orientation des médicaments donnés. Voilà, ça c'est un petit peu plus compliqué. Simplement pour vous rappeler eh bien, que en France, en Lorraine en particulier, eh bien, les hommes gardent l'apanage des syndromes coronariens aigus. Ce sont des données sur l'infarctus, hein, on est d'accord, puisque le registre concernait uniquement l'infarctus. On avait 78% d'hommes pour 22% de femmes. Ça, ce sont les infarctus qui appellent, puisque par définition, le registre concernait les gens qui appellent. Il faut savoir que les femmes, en particulier âgées, appellent beaucoup moins, ou supportent la douleur, ou vont minorer leurs symptômes. Ce qui ne les rend pas moins à risque, hein, pour autant, au contraire, puisqu'elles vont plutôt nier leurs symptômes. La répartition des infarctus, simplement pour montrer que notre registre correspondait à peu près aux mêmes répartitions que les registres d'autres régions, avec, par l'apport des urgences, par la jumelle des urgences, essentiellement des infarctus inféro-postérieurs, qui représentaient quasiment la moitié de nos patients. Simplement parce que les inféro postérieurs, enfin c'est en gros l'explication qu'on peut en donner, c'est que ces infarctus-là ont souvent un cortège de malaise, à savoir de nausées, de vomissements, de sensations de mal-être, qui fait que le patient va probablement appeler assez facilement par rapport au patient qui n'a, on dirait, que la douleur thoracique, isolé, sans malaise, sans hypotension, sans difficulté à se lever. Hein, ce patient qui aura effectivement plus de complications appellera plus facilement. Je vais aussi vous replacer l'évolution de la prise en charge des syndromes coronariens aigus dans les maintenant 40 dernières années. Savoir que les USIC datent maintenant donc de 40 ans, des années 70, les unités de soins intensifs de cardiologie, avec une place de plus en plus importante au syndrome coronaire aigu, puisqu'à cette époque, dans les années 70, on les mettait dans un lit et on les regardait. Depuis, dans ces lits, eh bien, on a des patients qui vont bénéficier de médicaments de plus en plus efficaces, avec un revers, hein, quand un médicament est efficace sur la thrombose, il y a le revers de l'hémorragie, donc de l'effet indésirable. Donc avec initialement surtout le développement de la fibrinolyse, qui a été historiquement, on va dire, une des bonnes justifications d'un service d'urgence médicalisé dès l'étape préhospitalière, puisque en gros on pouvait apporter une fibrinolyse de manière précoce, par rapport à l'administration, en gros, à l'arrivée aux urgences. Et en gros, le système français de médicalisation préhospitalière a fait ses preuves, si vous voulez, dans ce domaine-là, grâce à la précocité d'administration de la fibrinolyse, qui a montré de manière scientifique tout à fait cohérente, avec de belles études et de bonne qualité, elles sont citées ici, eh bien, la supériorité de l'administration précoce de cette fibrinolyse. Et puis, dans les années 80, s'est développé parallèlement l'angioplastie, l'un et l'autre n'étant pas forcément opposés, puisqu'au départ on n'avait pas forcément d'accès à l'angioplastie de manière aisée. On a développé les sites pouvant permettre de réaliser des coronarographies et en particulier tout ça ne pouvait être lié qu'au déploiement et à la diffusion des premiers stents, donc des premières endoprothèses percutanées. Voilà. Donc si on reprend l'historique, en gros, on avait la thrombolyse, on avait le développement des salles de cathétérisme, et puis on a eu le développement et l'amener des médicaments type anti-GP2B3A, je vous ai parlé du Réopro, il y en a d'autres, qui étaient plutôt des petites molécules dans le non-ST+, et puis le développement des médicaments comme les P2Y12, qui est un des récepteurs plaquettaires concernés, c'est les médicaments que vous connaissiez, puisque c'était le Ticlide, qui a été progressivement remplacé pour une meilleure efficacité, un meilleur rapport efficacité effet indésirable par le Plavix. Et puis maintenant, vous voyez chez vos patients des médicaments tels que l'Effian. Et puis encore d'autres médicaments qui arrivent toujours en agissant sur les mêmes récepteurs. Tous médicaments dont vous allez plus qu'entendre parler, pour vous probablement par la lorgnette des effets, de leurs éventuels effets indésirables hémorragiques. Mais toujours est-il que le développement de l'ensemble de ces médicaments va aboutir à des jeux sur la coagulation chez ces patients, et puis des prises en charge secondaires qui ne sont pas sans conséquences. Et puis enfin, donc les centres de réadaptation cardiaque, donc last but not least, puisque la prise en charge secondaire va également faire le pronostic de ces patients qui ont eu des syndromes coronaires aigus. Alors, simplement pour vous rappeler quelques petites étapes de la physiopathologie des syndromes coronaires. En gros, on parle de syndrome coronaire aigu. On reverra tout à l'heure les définitions dès lors qu'on a une douleur, mais du point de vue pharmaco, qu'une douleur et que la douleur est due à un problème coronaire. Et donc, sur le plan physiopathologique, en gros, on a un thrombus à la surface d'une plaque d'athérome, en gros, qui est instable. Donc le syndrome coronaire devient aigu dès lors que cette plaque d'athérome instable va rompre. Donc on peut avoir différents systèmes, en particulier la rupture de plaque, qui va entraîner donc une thrombose intracoronaire. Et puis on va avoir là-dessus un rôle important de l'inflammation, d'où le développement de tous les nouveaux médicaments dont je vous parlais tout à l'heure, dont on parlera ensuite. Voilà. D'ailleurs, beaucoup d'études biologiques ont montré, par exemple, qu'on a une élévation de la CRP dans les syndromes coronaires aigus, et que plus cette CRP était élevée, plus la mortalité coronaire était élevée. Là-dessus, va forcément se greffer un terrain, c'est-à-dire que votre patient aura plus ou moins de chances de développer des syndromes coronaires en fonction de son hémostase primaire ou de son système fibrinolytique. Et donc, en gros, on sait qu'on a des patients qui ont plutôt des états pré-thrombotiques qui vont favoriser la survenue des syndromes coronaires aigus. Les facteurs de risque sont les facteurs de risque cardiovasculaires tout à fait classiques. Les SCA n'ont pas de particularité. Et à tous les stades de la maladie athérothrombotique, on peut retrouver ces facteurs de risque. Bon, je vous passerai simplement cette petite image qui avait pour but simplement de vous montrer qu'en fonction de l'aspect histologique à l'intérieur des coronaires, on peut passer, et c'est ça qui va me faire aboutir à mes histoires de définition nouvelle, qui va nous faire aboutir en fonction de l'état d'occlusion des coronaires à un aspect électrocardiographique tout à fait différent, et finalement à un tableau clinique tout à fait différent, à savoir qu'on peut avoir une occlusion qui reste incomplète, à savoir un thrombus qui ne va pas obstruer la lumière coronaire, ce qui n'empêche qu'on aura des symptômes à type d'angor instable, avoir à l'autre extrémité une occlusion coronaire tout à fait complète, aboutissant à l'infarctus du myocarde. Ces deux situations étant, on va dire, dès lors qu'on a un électrocardiogramme réalisé chez le patient, assez facile à diagnostiquer, sauf qu'entre les deux situations, on a tout un ensemble de cas cliniques et de situations cliniques qui vont montrer une instabilité chez ce patient et qui vont pouvoir déterminer des tableaux de haut risque ou de bas risque, plaçant nos patients plutôt de ce côté-là ou plutôt de ce côté-là, à savoir que au final, les tableaux cliniques vont être un continuum tout à fait... un continuum continu, c'est pas très classe. Bon, en gros, on aura une réelle continuité entre ces deux tableaux avec une augmentation effectivement du risque ischémique entre l'angor instable et l'infarctus du myocarde. Là, on peut passer simplement quelques images de microscopie électronique du thrombus, avec effectivement des qualités différentes du thrombus en fonction du moment où on l'observe par rapport à sa formation. On y arrive, la nouvelle classification des syndromes coronaires aigus. En gros, vous avez tous entendu ces mots-là, angor, infarctus, infarctus sans onde Q, SCA, SCA non ST+. Enfin, moyennant quoi, quelle est la question autour de tout ça? En gros, il s'agissait simplement de remettre tous ces mots dans l'ordre. D'une part, on a les syndromes coronaires non ST+. En gros, la classification depuis 2007 de la Société européenne de cardiologie va être basée sur l'aspect électrocardiographique du segment ST. Soit on n'a pas de sus décalage, on est donc bien dans les SCA non ST+. Il y a des recommandations tout à fait dédiées dans ce contexte. Et dans ce contexte, on peut avoir, rappelez-vous, on appelait ça l'angor, la douleur d'effort, le patient va arrêter son effort, la douleur n'existera plus. Crescendo, l'angor va devenir instable, à savoir que le patient, pour des efforts moindres, va toujours présenter des épisodes de douleur thoracique, sachant que l'effort est de moins en moins important, qui va déclencher cette douleur. Et puis on arrive à la douleur de repos, qui est censée être donc l'angor le plus instable. Ensuite, l'infarctus sans onde Q, en gros, on va avoir un patient qui a mal dans la poitrine, qui ne va pas avoir d'élévation du ST à l'électrocardiogramme et qui va avoir biologiquement une troponine élevée. On va y arriver. Le SCA-ST+, c'est le syndrome coronaire aigu, c'est-à-dire la douleur, qui dure depuis plus de 20 minutes, etc. On va revoir nos définitions. On a l'électrocardiogramme avec un sus décalage de ST. Et dans ce contexte, bien entendu, la troponine n'a aucun intérêt, en dehors de ralentir la prise en charge du malade. Donc la biologie de ce patient-là n'a aucun intérêt, on sait que ce patient a obstrué sa coronaire, on a un objectif, le revasculariser. On reprend le SCA-ST+, définition ESC 2010, en gros c'est la douleur thoracique typique, ça ne va pas répondre à votre question hein, parce que vos questions elles vont être sur celui qui a la douleur atypique et sans facteur de risque cardiovasculaire. Mais reprenons donc la définition du SCA-ST+, c'est la douleur thoracique typique. Elle dure normalement depuis moins de 24 heures. Elle a commencé depuis moins de 24 heures. Elle dure depuis plus de 20 minutes. Elle ne cède pas à la trinitrine. Ça fait partie du diagnostic, effectivement. Et il y a, électrocardiogramme, un sus décalage de ST qui est supérieur à 2 mm dans deux dérivations contiguës. Je vous donne cette définition parce qu'effectivement, vous pouvez également disposer d'électrocardiogrammes et être amené à les voir. Donc un sus décalage de ST supérieur à 2 mm dans deux dérivations contiguës, sachant que dans les dérivations standards, 1 mm va suffire. Donc faut pas s'attendre sur les dérivations standards à avoir des super ondes de Pardy de plus de 2 mm. Dans le SCA non ST+, eh bien, l'ESC maintenant 2011 s'est attaché à déterminer les patients à haut risque d'infarctus. Pourquoi doit-on déterminer le degré de risque ischémique? Parce que, je vous l'ai dit, on a développement de plein de médicaments qui sont de plus en plus efficaces et qui, revers de la médaille, vont aussi être à risque des fins désirables, essentiellement hémorragiques. Donc, les patients à haut risque vont le plus bénéficier évidemment de ces médicaments et de leur administration précoce. Alors évidemment, c'est l'ischémie récidivante, patient qui a mal et qui a de plus en plus mal et de plus en plus souvent, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est le patient qui a de plus en plus mal alors que l'effort est moindre. Dans les patients haut risque également, montrés par les études de bonne qualité, mais également les grands registres développé avec le sous-décalage du segment ST. On a même montré que si le sous-décalage est très profond, eh bien on a encore plus, c'est des patients qui meurent plus. Voilà. L'élévation transitoire du ST, c'est-à-dire le malade qui a eu mal, qui a sus-décalé son ST et qui, devant les secours, va renormaliser son segment ST. Eh bien, ce sont des non-ST+, ils resteront non-ST+, mais ils sont à très haut risque. Ce sont des patients qui bénéficieront quasiment d'une prise en charge comparable à celle du sus-décalage de ST. Le patient diabétique, j'attire votre attention, est un patient à très haut risque ischémique. L'état d'inflammation générale chez ce patient va faire qu'effectivement ce patient est à très haut risque ischémique. Voilà, évidemment, les marqueurs sériques de nécrose, alors je vais pas entrer sur les différents marqueurs, les nouveaux, les anciens, la troponine hypersensible qui est en train de sortir et qui est de plus en plus disponible. En gros, on n'a pas notre avis à donner, manifestement, ce sera une troponine hypersensible partout. Donc, l'élévation de la troponine est un signe, augmente le risque de votre patient. Et puis des anomalies électrocardiographiques telles que le bloc de branche gauche, et puis les patients porteurs de pacemaker sont des patients au risque. Alors là, c'est pas simplement parce que quand on a un pacemaker, ça vous donne en soi et tout seul plus de risques de faire un infarctus. C'est simplement parce que les patients qui ont un pacemaker, eh bien, ont un électrocardiogramme qui va être non contributif. Donc on a un petit peu tendance à faire que ce patient, ben, plus facilement va aller aux urgences ou va attendre une prise de sang. Or, lorsque la prise de sang arrive positive, on sait qu'il y a 3 heures avant qu'on la fasse, le patient était déjà au risque. Hein. Il aurait pu aussi bien, je dévoile un petit peu ce qu'on va dire après, mais il aurait pu aussi bien fibriller à la maison tout seul. Donc ces patients à ECG difficile ou non contributif, donc le bloc de branche gauche commence à voir qu'il est nouveau, en dehors d'avoir un dossier super bien tenu ou un cardiologue disponible 24 heures sur 24 pour récupérer l'ECG de référence, ou un patient, effectivement, qui aura gardé quelques éléments, quelques documents dans sa poche, il ne l'aura forcément pas au moment où il appellera. Toujours est-il que savoir si le bloc de branche gauche est de novo, ça devient assez difficile. Sachant que s'il est de novo, ce patient a un infarctus, et ça fait partie de la définition de l'infarctus. Donc c'est quand même une donnée, effectivement, qu'il vaut mieux avoir. Hein, si votre patient a un bloc de branche gauche et qu'il est connu, vaut mieux que le patient le sache et qu'il ait un ECG à la maison. Voilà. Le patient qui a un pacemaker, encore une fois, on va le mettre de côté. On sait que son électrocardiogramme va être difficilement interprétable, voire non interprétable. Et en pratique, soit on va le faire attendre, soit on va assez facilement mettre tout ça sur le dos d'une douleur pariétale. Et effectivement, ces patients meurent plus. Et ils meurent pas plus à cause de leur pacemaker, ils meurent plus parce qu'on les sous-évalue. Alors, les patients à bas risque d'ischémique. Alors, on a écrit ECG non contributif, c'est pas forcément le bon mot. En gros, c'est l'ECG qui ne va pas vous montrer de modification. Donc, les patients à plus bas risque n'ont pas de modification à l'électrocardiogramme. La douleur, par exemple, peut avoir cédé après trinitrine, et il n'y avait rien à l'ECG. La douleur peut avoir cédé spontanément, et, encore une fois, il n'y avait rien à l'ECG. Ce que je veux vous dire, et vous allez le voir, c'est qu'en gros, l'évolution clinique de la douleur sous trinitrine ne va pas nous donner forcément d'indication sur le risque pour ce patient. On y revient. Alors là, on va évoquer le problème de l'appel pour douleur thoracique. Et là, j'aimerais bien un petit peu votre avis, parce que effectivement, 60% de nos sorties préhospitalières, de nos interventions préhospitalières, se font sur le motif de douleur thoracique. Je pense qu'une bonne partie des appels que vous pouvez réceptionner de vos patients vont comprendre également des problèmes de douleur thoracique. Alors vous avez, on va dire, en plus de nous, probablement une meilleure connaissance de votre patient au moment de l'appel. Vous avez une idée de ses appels antérieurs. Ça ne va pas pour autant vous donner le fait d'être certain. Donc, quelle proposition faire pour gérer ces appels pour douleur thoracique ? Est-ce que quelqu'un veut en parler ? Que feriez-vous ? Vérifie mon heure, hein. C'est bon. Alors, en gros, la question, c'est dois-je y aller ? Comment interroger mon malade ? Quelles vont être les questions à poser ? Quels éléments vais-je recueillir ? Voilà. Juste, il existe des recommandations, on ne les a pas citées ici, mais il existe des recommandations de la Haute Autorité de Santé sur ce sujet, qui a été... alors ces recommandations ont fait l'objet, raison pour laquelle on ne vous les a pas citées, elles datent maintenant de, pareil, 2006-2007. Elles ont fait l'objet de beaucoup de récriminations, mais ce n'était pas sur le sujet, c'était pas du tout sur le sujet du « est-ce qu'on doit y aller ?» etc. Ce sujet-là a été acquis, sachant qu'il y avait pas mal d'organisations, y compris syndicales, représentant la médecine générale, et la haute autorité de santé, enfin, disons, la conférence faite sous l'égide de la haute autorité de santé, eh bien, je vous donne la réponse comme ça, on demandait que le médecin généraliste qui recueille cet appel demande à la personne de faire le 15, de manière à ce que l'interrogatoire et la régulation médicale puissent avoir lieu, et autant que faire se peut, se déplace au domicile du malade. Ceci ne fait pas force de loi, mais en gros, ce qu'on souhaite, c'est que ces appels soient orientés vers le 15 pour éviter le retard de prise en charge, mais que les renseignements puissent être aussi donnés aux médecins régulateurs, c'est-à-dire que les patients ne savent pas toujours expliquer, donc il peut être utile que vous appeliez également le 15 en parallèle, hein, pour que d'une part, nous, on ait eu le malade, c'est toujours important d'avoir le malade directement en ligne, et puis qu'on ait les réels renseignements médicaux, et en particulier la documentation, hein, sur ce malade. Donc voilà, ça c'est un peu, c'est, on va dire, les recos. Voilà. Ce qu'on propose, ici, pour vous, c'est en gros d'essayer d'obtenir, d'obtenir les renseignements suivants. En gros, initialement, bonjour, j'ai mal dans la poitrine, eh bien, vous allez leur demander s'ils ont des signes de gravité. Ça, c'est si vous, vous avez eu l'appel. Hein. Évidemment, si c'est passé par un secrétariat, ça va être assez difficile. Donc, en gros, y a-t-il des signes de gravité? Le patient a perdu connaissance, le patient a un déficit neurologique, le patient est en sueur, le patient a des difficultés respiratoires. Il va de soi qu'en termes de délai d'intervention pour vous, ce patient-là, vous ne pourrez pas être auprès de lui avant les secours. Donc, vous allez demander à ce que la famille fasse le 15. Et effectivement, alors là, c'est moi qui vous le demande, mais c'est un petit peu l'avis du côté urgence. Il nous est vraiment utile que vous puissiez nous donner, vous, les renseignements médicaux concernant ces malades-là. Voilà, donc soit on a des signes de gravité initiaux d'emblée, bon, bah faire le 15, c'est évident. Vous déplacez pas, c'est beaucoup une question de délai d'intervention. Est-ce que vous pouvez y être avant les secours ou pas? Sinon, effectivement, pas d'intérêt. La deuxième question, c'est votre ressenti. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que vous connaissez votre patient? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il a déjà eu mal dans la poitrine? Si c'est déjà arrivé, quel était le diagnostic la première fois? C'était de l'angine de poitrine. C'est pareil. On confirme, faire le 15. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, ça, est-ce que c'est déjà arrivé? Ça n'est jamais arrivé. Ou alors, oui, mais je ne sais pas ce qu'il y avait. Eh bien, à ce moment-là, on va avancer un petit peu. Eh bien, on va interroger de manière un peu plus détaillée sur les caractéristiques de la douleur. C'est assez basique, c'est ce que vous ferez au cabinet, et maintenant, c'est pas aussi simple pour autant de poser toutes ces questions-là au téléphone. Alors pour nous, c'est un peu notre quotidien, effectivement, régulation. Je suis pas certaine que ce soit forcément pour vous le plus classique de le faire par téléphone. Donc en gros, demander au patient à quel endroit il a mal, et comment il décrirait cette douleur, s'il existe des irradiations. Nous, ce qu'on demande à la régulation, c'est vrai, souvent, on fait bouger le patient. On lui demande d'inspirer profondément. Parfois, on lui demande de palper ou de se mobiliser, de bouger l'épaule. Et ça, ces questions-là, elles sont très poussées, en particulier si le patient n'a pas de facteur de risque. C'est-à-dire que le patient, en gros, a une douleur tout à fait atypique, il n'a pas de facteur de risque. On recherche la douleur pariétale, quoi. On recherche des diagnostics différentiels. Ce qui ne voudra pas dire que ce patient sera laissé là pour autant. Hein. Mais après, effectivement, dans ce contexte-là, si on détermine que notre patient n'a pas de facteur de risque, que cette douleur semble tout à fait pariétale, à ce moment-là, il est même probable qu'on repasse par vous pour vous demander, effectivement, de voir ce malade ou organiser en fonction d'aspects plus logistiques, on va dire. Voilà. Et dans ce contexte, où on est plus sur la douleur atypique, eh bien, on sera entre appeler le 15, se rendre sur place, tout cela en fonction de critères logistiques, essentiellement votre disponibilité. L'intérêt du test à la trinitrine. Quelqu'un veut en dire quelque chose? Vous en faites? Les patients sont équipés, encore, un petit peu. Probablement beaucoup moins qu'avant. En gros, le problème de ce test à la trinitrine, c'est essentiellement que sa valeur diagnostique est tout à fait aléatoire. Vous le verrez, on a une étude qui est même pas récente, hein, où en gros, on va revoir cette étude, où en gros, on a quasiment 50% de chance de faire le diagnostic grâce aux modifications et en étudiant simplement l'évolution de la douleur sous trinitrine. Donc la valeur diagnostique de ce test, bof. Donc pour trouver les malades cardiologiques, il n'est pas bon. Accessoirement, on n'a pas de diagnostic de certitude, à savoir qu'il y a aussi des douleurs tout à fait, on va dire, non coronariennes, type spasme de l'œsophage, qui passent sous trinitrine. Hein. Bon. Et puis, on a effectivement besoin de réaliser un ECG, tout ça pour pouvoir classer le degré de risque de notre malade. Donc, c'est le fameux article dont je vous parlais, 2005, dans les Annals of Emergency Medicine, qui, en gros, étudie les changements en termes d'intensité de la douleur après l'administration de trinitrine. Il va reprendre 500 ou 600 malades consécutifs. Bon, l'âge moyen, c'est 52 ans, ça correspond à peu près, à la répartition qu'on peut avoir, nous, sur nos registres. Et puis, il va voir tous ces malades avec douleur thoracique, et il va vérifier, et on va vérifier quelle va être l'évolution après trinitrine. Sur ces 660 patients qui ont appelé pour douleur thoracique, on prend le diagnostic final, et on en a 18% qui étaient réellement d'origine cardiaque. donc un cinquième de nos 660 malades. Et parmi eux, on n'a aucune différence significative et on n'a aucun tableau clinique de réaction à la trinitrine qui va ressortir. En gros, on en a un quart qui n'ont eu aucune modification après la trinitrine et à peu près les mêmes valeurs qui ont eu une modification minime, une modification moyenne ou une modification tout à fait significative après la trinitrine. Donc en gros, pas de preuve de l'intérêt de la trinitrine pour montrer l'origine cardiaque. Donc ça, c'est l'aspect... Ça n'a pas montré le diagnostic, mais accessoirement, accessoirement, la trinitrine a aussi des effets indésirables, je vous le rappelle. Donc en gros, conclusion des auteurs, la réponse à la trinitrine n'est pas un indicateur fiable en soi de l'étiologie cardiaque d'une douleur thoracique. Effectivement, c'est l'aspect clinique, ajouter un électrocardiogramme, plus ou moins une biologie, si l'électrocardiogramme a été non contributif, qui permettra d'orienter notre malade et de le classer en fonction de son risque ischémique. Là, on est dans le cœur du sujet. Prescrire ou ne pas prescrire la troponine. Qui prescrit la troponine ? Bon, vous avez un patient qui vient vous voir au cabinet ou que vous voyez à domicile, qui va avoir mal dans la poitrine. Est-ce que vous prescrivez une troponine en ville ? En gros, patient restant à domicile. Oui ? Non ? Est-ce qu'il y a des gens qui systématiquement ne prescriront pas de trinitrine et en gros préconiseront l'envoi aux urgences ? Plutôt assez facilement envoyé aux urgences. Quels vont être les critères qui vont faire que vous irez plutôt aux urgences ? La distance, en gros, par rapport aux urgences. On a vu tout à l'heure qu'on interrogeait le malade en fonction de ses facteurs de risque, bien entendu. Voilà. Et puis de sa clinique. Bon, alors, prescrire ou pas prescrire la troponine. Les questions, si on fait une troponine pendant qu'il reste à la maison, quel est le risque ? Donc, en gros, on sait que si notre malade, si on décide de faire une troponine, c'est qu'on a des arguments pour nous faire penser que ce malade-là avait un problème coronarien. Pendant ce temps-là, après, vous avez chacun vos réseaux de biologie, mais on sait que pendant ce temps-là, avant que le résultat n'arrive, sachant que vous n'avez pas, 80% des cas, pas réalisé d'électrocardiogramme, on sait que d'ici à ce que le résultat arrive, le patient est tout seul à la maison, ou même sous surveillance de quelqu'un, toujours est-il qu'il n'y a pas de scope ou de défibrillateur à proximité du patient. Donc, dès lors qu'on a réalisé la troponine, c'est qu'on avait cette arrière-pensée de syndrome coronaire. Or, il est tout seul ou à distance des secours adaptés. Et puis, le patient a eu sa troponine, et puis le résultat est positif. Qu'est-ce qu'on en fait ? On rappelle les secours, et puis on va le faire hospitaliser. Il aura encore besoin de son électrocardiogramme parce que l'électro va permettre de l'orienter. Ou on a une troponine positive avec un électro qui ne s'est jamais modifié. Ceci dit, il est probable qu'on puisse le faire entrer aux soins intensifs de cardiologie sans grand souci, sauf si on trouve un diagnostic différentiel. Vous savez que la troponine est très spécifique. Je pense que vous en avez bien... C'est quelque message qui est passé assez facilement. C'est très spécifique, mais on a encore des situations de troponine non cardiaque. Elles sont réelles. D'une part, tout ce qui est les souffrances myocardiques secondaires, l'hypoxie, l'anémie, vont forcément entraîner une souffrance myocardique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas coronaire, ce sera cardiaque, mais ce ne sera pas coronaire. Donc il faudra corriger une anémie, corriger une hypoxie, et vous verrez que la troponine se corrigera. D'accord ? Simplement, petit rappel sur la troponine. Donc si résultat positif, que faire ? Eh bien, aller à l'hôpital. Donc en gros, si troponine faite, ça voulait dire que le patient devait être à l'hôpital. Si le résultat est positif, il doit aller à l'hôpital. Si le résultat est négatif, notre patient à qui on a fait une troponine, vous en restez là ? Pardon ? La tropo ? Ouais, absolument. Délai de montée de la tropo, intérêt des cinétiques, de la cinétique enzymatique ? Tout à fait. Donc en plus, il faut la refaire. Est-ce qu'on peut poursuivre ça à domicile ? Allez, admettons qu'on ait fait un cycle enzymatique chez ce patient-là. Sa tropo n'est pas montée, on a fait un cycle enzymatique, on est à plus de 6 heures de la douleur, il est toujours négatif. Ce patient-là a des facteurs de risque cardiovasculaire. Eh ben, les recommandations, elles disent épreuve d'effort dans les 24 heures. Alors, on peut aussi avoir son réseau de cardiologie et avoir la possibilité d'avoir une épreuve d'effort. Ça devient franchement difficile et je comprends l'aspect logistique. Hein. On n'a pas tous le cardiologue qui fait des épreuves d'effort juste à côté. Donc, voilà. Alors, vous savez aussi que se développent des unités douleurs thoraciques. Et effectivement, c'est quand même le bon endroit. D'une part, il y a surveillance. Deuxièmement, la prise en charge est complète, c'est-à-dire qu'à la sortie de l'unité douleur thoracique, ça fait dire si votre patient est coronarien ou pas. Parce qu'on a la même avec, il y a eu une tropo qui était négative il y a une semaine, mais j'ai à nouveau mal. Et il a des facteurs de risque nombreux et lourds. Eh bien, on ne sait toujours pas si notre malade est coronarien. Hein, il a même peut-être un spray de trinitrine qui lui a été prescrit, mais je ne sais toujours pas si ce malade est coronarien. Et ce malade-là doit avoir le même bilan, il doit avoir son électrocardiogramme. Je crois que la troponine toute seule n'a aucune valeur, ça c'est certain, en dépit de sa spécificité. Donc en gros, on a une clinique, on a un électrocardiogramme, et alors on a une surveillance à effectuer chez ces malades-là. C'est-à-dire que si vous avez en tête de faire une troponine, c'est que vous avez en tête que ce patient est coronarien. Dans ce contexte, et au vu du risque encouru, il nous semble assez logique que ce patient puisse être surveillé dans un milieu qui pourra réagir en fonction des complications. La complication, c'est la fibrillation, hein, faut être clair. Hein. C'est ça qu'on recherche. Voilà un petit peu l'état d'esprit. Je ne sais pas si ça changera vos pratiques, mais je pense qu'il est assez impératif qu'on essaie de limiter ces patients. D'une part, qu'on va rechercher 4 heures après la prise de sang avec une tropo positive. Quand on arrive, c'est un sus décalage. Donc on est effectivement à 3 heures de retard de prise en charge. Vous savez qu'une heure de prise en charge complémentaire, c'est autant de myocardes non sauvés. Et donc, je mets ça à votre méditation. Alors, on va voir un petit peu rapidement les filières. On sort de la prise en charge initiale. Les filières, les rôles des SAMU et SMUR, et puis tout ce qui est stratégie de reperfusion. Alors ça, c'est simplement à l'appui de la phrase juste que je viens de vous dire. En gros, USIC 2000, c'est Nicolas Danchin c'est une étude à propos d'un jour, USIC 2000. Toutes les USIC françaises ont participé à ce registre. Il y en a eu un, c'est tous les 3 ans, je crois, 2003, 2006. Et USIC dès 2000 montre en gros que le patient, qui a une douleur thoracique et qui va être admis directement aux soins intensifs de cardiologie, sans passer par la case urgence, ça sort en termes de mortalité. C'est un registre, attention. Hein. Donc avec toutes les limites scientifiques au registre. Hein. Toujours est-il que le patient qui est passé par les urgences meurt plus que le patient qui est allé directement aux soins intensifs de cardiologie. C'est l'urgentiste qui vous le dit, non pas qu'on l'ait tué aux urgences, mais le passage aux urgences entraîne une heure de délai complémentaire. Mais incompressible, hein, même avec un urgentiste au taquet de la douleur thoracique qui va d'emblée prendre ce malade-là parce qu'il a mal, même avec un électrocardiogramme réalisé initialement, on prend une heure, c'est le patient qui prend une heure de retard de prise en charge, et ce une heure de retard de prise en charge sort significativement en mortalité, donc augmente la mortalité du malade. Alors c'est valable pour chaque intermédiaire. Hein. On va mettre un médecin dans l'intervalle, le patient a appelé les secours, nous on va dire médecin généraliste, ECG, pas médecin généraliste avec ECG, pourquoi pas, le médecin y va, il fait le diagnostic, il rappelle les secours, c'est une heure de perte de prise en charge. Dès lors qu'on n'a pas médicalisé d'emblée avec une équipe de type SMUR. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire pour tous les malades. Hein. Sinon, on n'a pas besoin de médecin. Hein. Si on arrive à faire des diagrammes sans la clinique et sans l'interrogatoire, effectivement, on n'a plus besoin de nous. Donc, en l'occurrence, quand même, rappelez-vous bien, chaque heure perdue, c'est du myocarde perdu, et c'est montré depuis bien longtemps. Allez, quelques petits mots quand même sur les traitements adjuvants, les médicaments que vous allez rencontrer chez les patients sortants. Alors, le patient qui a un syndrome coronarien aigu va avoir le droit à un traitement antalgique. Pourquoi ? Parce que c'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire ? C'est pas les antalgiques qui vont sauver le malade, c'est pas les antalgiques qui vont faire réduire le sus décalage, c'est pas les antalgiques qui vont revasculariser notre malade, on est bien d'accord. Cependant, ça va diminuer la consommation myocardique d'oxygène, Et on peut dire que dans un tableau de STA, ça semble assez logique de vouloir obtenir ce résultat-là. Ça va diminuer le stress du patient. On va utiliser, nous, des morphiniques d'emblée, type nalbuphine ou morphine. Ça, ce sont les études 90, 92, aspirine is better than n'importe quoi d'autre. Donc ce sont les études fondatrices de l'intérêt de l'aspirine, c'est-à-dire qu'on mettait ces patients sous aspirine en unité de soins intensifs qui était donc développée, et puis on les regardait. Donc ça, c'est les toutes premières époques où en gros c'était l'aspirine qui sauvait les infarctus. Depuis, on a nombreuses et larges études concernant les héparines. Alors, héparines non fractionnées, héparines de bas poids moléculaire. On a de nombreuses études. En gros, Gusteau nous avait orienté vers les héparines de bas poids moléculaire. Et on a utilisé du Lovenox dans les SCA et ST+, assez facilement. Synergie PCI, c'était une sous-étude de synergie qui, pareil, comparait l'ovenox, donc l'énoxaparine, versus l'héparine non fractionnée chez les patients qui avaient un infarctus et qui étaient mis en angioplastie. Encore une fois, en fonction de la revascularisation qui est proposée à nos malades, on va utiliser des médicaments tout à fait différents, parce que le risque hémorragique est différent également. Donc en gros, on a 4600 patients, on les randomise de bras, avec des doses d'énoxaparine, qui sont les doses sous-cutes, vous savez, c'est 1 mg/kg. Deux fois par jour. Et dans ce contexte-là, on examine le critère principal, qui est un critère mixte de mortalité de réinfarctus à 30 jours. En gros, sur le critère principal, aucune différence significative, que ce soit en mortalité, réinfarctus ou en critère mixte. Aucune différence significative entre l'héparine non fractionnée et le Lovenox. En termes de saignement, on va retrouver une différence significative en termes de saignement majeur, à savoir que le Lovenox, l'héparine non fractionnée semblait dans Synergie PCI apporter une différence en termes d'effet indésirable majeur. Donc on n'a pas mis la conclusion. Donc en conclusion, en gros, l'énoxaparine a perdu son degré de recommandation dans les syndromes coronariens aigus ST+. Il faut savoir que depuis, se posent d'autres questions, c'est celle-ci. En gros, vous vous souvenez du... Est-ce que le Ticlid, ça vous rappelle des choses? C'était quand même des médicaments qu'on a beaucoup utilisés. Le relais du Ticlid a été pris par le Plavix, donc ticlopidine, c'était le Ticlid. Le Plavix, le clopidogrel. Et puis le clopidogrel qui a rendu d'énormes services, le Plavix, avec de nombreuses études, que soit tout seul, c'est-à-dire chez le patient qui va avoir un traitement médical en soins intensifs, que soit chez le patient thrombolisé, il a réellement fait ses preuves. En gros, quand on thrombolise, on ajoute le Lovenox, également fait ses preuves avec la thrombolyse, et puis on ajoutait du Plavix. Il faut savoir que maintenant sont sortis d'autres médicaments, donc celui qui est indiqué ici, donc c'est le Prasugrel, ça c'est l'Effient. Vous avez certains de vos patients, je pense que ça fait un an qu'il est lancé, donc je pense que maintenant vous devez voir des patients sous Prasugrel, qui est prescrit pour 6 mois à 1 an dans les suites de l'angioplastie. Donc c'est chez le patient qui a été dilaté. Vous allez voir arriver d'autres médicaments encore. Je veux juste revenir sur le fait du pourquoi on passe de ça à ça. C'est parce que si vous avez vu passer les études, on a vu se développer de nombreuses résistances au Plavix. Il n'y en a pas à l'Effient. Sauf que l'étude Princeps qui a fait l'Effient est une étude de cardiologie, et en gros c'est des patients uniquement dilatés. Alors comment savoir à l'avance si le patient va être dilaté, c'est parfois problématique. Toujours est-il qu'à la sortie de la dilate, ils sortent maintenant sous Prasugrel. Sachant que ce médicament donc a été testé de cette façon-là, on en a d'autres, c'est Ticagrelor, ça s'appelait Brilic, qui va sortir, donc vous allez commencer à voir de nouveaux patients sortir sous Brilic, donc P2Y12, de quatrième génération, qui a été testé en amont, c'est-à-dire qu'en gros, on a pris des patients avec douleur thoracique, et en gros, c'est le patient un peu de la façon dont nous, on les voit. Donc qu'ils aient du ST+, ou du non-ST+, c'est pas le patient qui a été vu uniquement en coro. Donc vous allez aussi les voir sortir sous brillique. Je passe sur les effets indésirables, on pourra revoir l'année prochaine parce qu'on a beaucoup de choses qui sortent également, maintenant qu'on a un petit recul, qui sortent également sur les éventuels effets indésirables, les hémorragies, que faire de tous ces médicaments-là quand mon patient doit être opéré. C'est une autre question, c'est pas la mienne pour l'instant, c'est pas celle du jour, mais je pense très intéressante. Et vous, c'est votre quotidien, je pense, maintenant. Comment gérer l'ensemble de ces médicaments qui vont agir sur la coagulation, qui sont de plus en plus efficaces et donc qui ont de plus en plus d'effets indésirables. Ça peut faire l'objet d'une autre conférence. Je vous passe l'étude de Triton, qui donc a montré la supériorité du prasugrel sur le clopidogrel, donc du Effient sur le Plavix. Une particularité, c'est vrai qu'on est revenu chez les diabétiques où effectivement le résultat est parti. C'est un sous-groupe qui avait été annoncé à l'avance, ça reste un sous-groupe. Toujours est-il que le groupe des patients diabétiques, donc des patients les plus à risque, encore une fois, va bénéficier le plus du médicament qui est efficace. C'est-à-dire qu'en gros, le rapport bénéfice-risque en termes d'efficacité par rapport aux hémorragies, eh bien, est en faveur de manière importante du prasugrel, en particulier chez les patients les plus graves. C'est un classique, hein, le médicament efficace va être efficace, et donc il y a également des effets indésirables, va être plus efficace chez le patient plus grave et à plus haut risque ischémique. Voilà, donc il est particulièrement recommandé chez les patients à très haut risque. Le Réopro, donc c'est un médicament assez cher et qui, en gros, a fait les beaux jours de la cardio-interventionnelle puisqu'il a beaucoup facilité les interventions coronaires en diminuant également le risque hémorragique avec des interventions coronaires qui étaient de plus en plus courtes. Ce médicament est issu du génie génétique, donc c'est un anticorps monoclonal, c'est cher. Ça fait partie effectivement des raisons de sa surveillance par ailleurs. C'est un médicament qui initialement a été testé pareil en angioplastie, mais on a eu je vais essayer d'avancer un petit peu. On a eu de nombreuses études et l'étude Princeps c'était Admiral où les patients étaient quasiment tous français dans le système français. Vous voyez qu'on avait du Ticlide dans Admiral. Voilà. Sur cet échantillon, la comparaison de ces deux échantillons, on montrait une réduction du risque ischémique de 59%. On n'arrive plus à montrer ça. Et en gros, 300 malades ont suffi, en tout cas, étaient suffisants en termes statistiques pour pouvoir montrer cette réduction vu la taille, le niveau de réduction du risque dans le groupe qui avait bénéficié d'apsiximab. Tout ça persistant à 1 an puis à 3 ans. Là, on a les planches à 30 jours et à 6 mois, mais tout ça persiste réellement avec une différence largement significative. Ce médicament-là, quand on regardait les sous-groupes, encore une fois, vous connaissez la qualité de ces études de sous-groupes, hein, donc je vous les montre avec des petits guillemets. Toujours est-il qu'on se rendait compte que la randomisation précoce tirait ces malades vers le haut et que la différence était particulièrement significative chez les patients qui avaient bénéficié d'apsiximab très tôt dans leur prise en charge. Donc ce médicament a été implémenté dans certains services préhospitaliers. La thrombolyse, je n'y reviens pas, c'est un ancien médicament, je ne reviens pas sur les phases de la coagulation sur lesquelles la thrombolyse va jouer. Toujours est-il que, on a pu montrer que thrombolyse contre rien, c'était mieux thrombolyse, et que la métallise, qui est le dernier né de la famille des fibrinolytiques, était finalement le plus efficace avec le moins effet secondaire, sachant que tout de même que ce qui fait pourquoi ne donne-t-on pas de la thrombolyse à tous nos infarctus, eh bien sachant tout de même que 40% des malades thrombolysés ne seront pas revascularisés. Donc ces malades-là devront bénéficier d'une angioplastie. On sait que l'angioplastie réalisée dans les suites immédiates d'une thrombolyse n'est pas positive. Et donc en gros, dorénavant, les recommandations ont fait que les stratégies de reperfusion ont finalement toutes trouvé leur place. En gros, si on est dans une zone où on peut arriver depuis l'électrocardiogramme réalisé et on peut arriver sur une table d'angioplastie en moins de 120 minutes, dans ce cas-là, on va choisir la réalisation d'une angioplastie. On ne fibrinolysera pas notre malade. La fibrinolyse, ça marche quand on est précoce et quand on est à distance d'une salle d'angio. En gros, on n'a pas le choix. On le fait parce qu'on n'a pas d'accès à une autre méthode de revascularisation. Alors, c'est très nancéo nancéen comme remarque, mais pour nous, ça fait, je pense, 7-8 ans qu'on n'a pas thrombolisé un patient. Voilà. Après, effectivement, dans tout le secteur Nancy, y compris tout Lunéville et Pontam, on a peu de zones qui sont à plus de 120 minutes. Hein. Bon, après, il peut y avoir le problème météo, etc. Et c'est souvent imprévisible. Et donc, faut savoir quand même que donc, les réseaux ont déterminé en Lorraine, dans l'ensemble de la Lorraine, les villes où un patient devra bénéficier plutôt d'une revascularisation par angioplastie ou d'une revascularisation par fibrinolyse. Donc en gros, on n'oppose pas les techniques, on les rend complémentaires et surtout on prédétermine par l'intermédiaire des réseaux et de ses calculs les zones et les endroits où on bénéficiera plutôt d'une angioplastie ou plutôt d'une fibrinolyse, en tenant compte par ailleurs de l'ensemble des effets indésirables des médicaments. Je vous ai mis également tout ce qui était d'orthographe. Je t'ai mis également toutes les études qui ont assis l'utilisation de la fibrinolyse. Quand on l'utilise 7 ans, ça doit être de toute façon précocement. Et puis, c'est avec de l'énoxaparine. Donc, c'est ACENT3+. Donc, les dérivés nitrés dans l'infarctus, ça vous dit quelque chose? Ça rejoint un petit peu notre problème de trinitrine. Pour vous, ce sera plus le problème de la trinitrine. Nous, c'est doit-on mettre du risordant, une seringue électrique sur un infarctus? On va revenir sur les problèmes d'effets indésirables de ces médicaments. Bon, on a, nous, personnellement, des avis assez tranchés. Ça peut ne pas être forcément le vôtre. Mais nous, en gros, bon, d'une part, on a la possibilité d'administrer qu'après la réalisation de l'électrocardiogramme. Donc, en soi, ça va pas... Ça ne va pas nous poser problème en termes diagnostiques. Accessoirement, quand on mettra la trinitrine, ce sera avec une voie veineuse périphérique, c'est-à-dire que si on a les effets indésirables à type d'hypotension et de vol vasculaire, ce qui peut être tout à fait négatif chez un patient qui a un infarctus, je vous le rappelle, donc si on a cet effet indésirable, on a quand même un accès veineux pour pouvoir gérer ces affaires-là. Ça ne va pas forcément être le cas lorsque vous allez donner de la trinitrine à un infarctus. Petite remarque, nous on le fait en plus en sécurité, si on le faisait, on va dire, on serait à peu près en sécurité, mais vous, c'est pas le cas, c'est-à-dire que si votre patient a un infarctus inférieur, allez, il a mal dans la poitrine, il a des facteurs de risque, en attendant les secours, vous allez lui administrer du risordant, vous n'avez pas d'électrocardiogramme disponible. Ce patient, quel va être l'effet du risordant? Vasodilatateur veineux. Le patient, il a un infarctus inférieur et même, il a une extension au ventricule droit. Vous êtes en train de lui vasodilater ses veines, de lui dilater ses veines, en gros, vous êtes en train de priver son ventricule droit du retour veineux. Ça va poser problème. Et donc, la plupart... Enfin, on a eu de nombreux... C'était pas le médecin qui avait donné la trinitrine, c'est le patient qui l'avait prise. Patient coronarien connu, équipé de sa trinitrine, il a mal dans la poitrine, il a un infarctus inférieur pas encore diagnostiqué, il prend sa trinitrine et il s'arrête. Et cela, il ne s'arrête pas en fibrillation, il s'arrête en asystolie, je vous rassure, parce qu'il s'arrête par désamorçage de la pompe. Donc, on doit avouer qu'on a acquis une étude sur le sujet, et que de toute façon, il n'y a pas urgence, ça ne soignera pas son infarctus, encore une fois, et accessoirement, ça ne diminue pas la consommation d'oxygène. On mettra des antalgiques, mais surtout, on ne mettra pas de dérivés nitrés chez nos patients qui ont un infarctus. La trinitrine va conserver un effet sur les angores instables, mais surtout pas dans l'infarctus, avec sus-décalage du ST. Voilà. Peu notre vécu de la chose. Voilà pour vous donner une idée un petit peu des stratégies de prise en charge. En gros, on va déterminer, selon les recommandations, on va déterminer deux types de patients, ceux qui sont précoces, ceux qui sont tardifs dans leur présentation. Et en fonction de leur présentation, on va avoir deux stratégies différentes. En fait, ce n'est pas deux stratégies différentes, c'est deux administrations différentes. À savoir, en gros, notre patient qui va être précoce dans sa présentation va pouvoir bénéficier, puisqu'il est à plus haut risque ischémique, il va pouvoir bénéficier des médicaments les plus efficaces. Les plus efficaces, mais évidemment, je vous l'ai dit, les plus à risque. On est toujours dans notre problème de balance risque-avantage-risque. Et puis, le patient qui est plus tardif, donc à plus de 3 heures de sa douleur thoracique, il aura des médicaments probablement moins efficaces, mais à moins gros risque hémorragique, puisque ce sont des patients qui vont pouvoir saigner plus. Voilà. Quant au choix de la technique de revascularisation, je vous l'ai dit, ça dépend tout simplement de la distance par rapport à la coro. Ici, je vous donne l'environnement pharmacologique de nos patients quand on les amène en coro. Donc, c'est fonction du délai. Ça, c'était pour le ST+. Ici, pour le non-ST+. Je pense qu'on est plus pour vous de l'ordre de la, de la culture générale, accessoirement pouvoir les prévenir de ce qu'on va leur faire. Donc vraiment le problème du non-ST+ tourne autour de la sélection, du tri de nos malades et de l'évaluation du risque. En gros, on a le patient qui est à très haut risque, c'est le patient instable. C'est le patient qui est en OAP. Il a mal dans la poitrine, il n'a pas de sus décalage de ST, mais il a des troubles du rythme mal supportés, ou il a mal dans la, donc, il a mal dans la poitrine, il a des troubles du rythme, ou il est en état de choc. Plus ou moins OAP, effectivement. Ce patient-là, qui est en non-ST+, va bénéficier exactement de la même prise en charge que le patient qui a un infarctus. Il est à haut risque ischémique. Donc, il bénéficiera d'une coronarographie avec angioplastie et un environnement pharmacologique maximal. Chez les patients dits à haut risque, alors on a déterminé tout à l'heure la liste de ce qui va déterminer le haut risque ischémique chez les patients. Donc ça peut être la clinique, ça peut être l'électro, le sous-décalage, en particulier quand il est majeur, le sous-décalage, l'ischémie récidivante, les évaluations transitoires du ST, le patient diabétique en soi, et puis évidemment la présence d'une troponine élevée vont déterminer des patients à haut risque. Ils vont bénéficier d'une hospitalisation la plus rapide possible vers les soins intensifs de cardio. Alors après, ça c'est en Lorraine assez différent d'un service à l'autre, mais on peut très bien hospitaliser vers les soins intensifs de Nancy des patients alors qu'on n'a pas encore la troponine, simplement sur la clinique et le haut risque. Il nous faut un électrocardiogramme. Et c'est pas parce que l'électro est normal qu'on ne prendra pas ce patient directement aux soins intensifs de cardiologie. On a vraiment, grâce au réseau, grâce à ce travail, la possibilité d'éviter le passage aux urgences chez ces malades-là, chez lesquels on n'a pas de troponine. On avait étudié des troponines embarquées, des choses comme ça, sauf que quand ils sont à moins de 3 heures, la troponine, 3/4 du temps, elle n'est pas élevée. C'est plus le cas maintenant avec les troponines hypersensibles, mais on n'a pas encore l'embarqué pour ça. On entre un petit peu dans les détails techniques de ces affaires-là. Toujours est-il qu'on a vraiment un relationnel vraiment assez sympathique avec les cardiologues, et dès lors qu'on les appelle sur un patient à haut risque clinique, ils vont pas nous embêter avec cette histoire de troponine, et ils peuvent assez facilement, même avec des électrocardiogrammes normaux, si on leur dit qu'on a une clinique concordante, nous prendre ces malades-là. Quand ça marche, il faut le dire, hein. Il y a des réseaux qui fonctionnent et ça fonctionne pas mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de couac, de choses comme ça, mais c'est un réseau qui fonctionne bien. Chez les patients qui sont à bas risque, eh bien donc on va leur proposer, en gros, on évoque un syndrome coronaire essentiellement sur l'aspect de la douleur thoracique, mais ce patient a zéro facteur de risque cardiovasculaire, on a un ECG normal. À ce moment-là, on propose l'entrée vers les urgences de l'hôpital. Toujours est-il que si on évoque un syndrome coronaire, il est bien entendu inenvisageable de laisser ce malade à domicile. Donc il va être orienté vers le service d'accueil des urgences, eh bien pour d'une part éliminer les autres diagnostics, évidemment les diagnostics différentiels, et puis pour orienter vers une filière de cardiologie, même si on a une tropo qui va s'avérer négative, ce malade-là, il peut avoir dans les 24 heures son échographie cardiaque et son épreuve d'effort, et donc un diagnostic et un statut vis-à-vis de la maladie coronaire. La prévention secondaire, alors ça c'est l'aspect conseil, je ne vous ai pas refait toute la partie médicamenteuse parce que le patient qui sort de cardio après avoir une angioplastie, il ressort avec un traitement effectivement assez majeur, c'était pas l'objet du traitement du topo puisque c'était les SCA, donc aigu, mais simplement en termes de prévention secondaire, voilà, on conseille, ça faisait partie des recommandations de l'HAS, évidemment de sensibiliser ces patients, vos patients à risque, les patients en surcharge pondérale, le diabétique, le patient qui a du cholestérol, le patient fumeur. Ça fait partie de l'ensemble des méthodes, on va dire, pour les persuader de stopper, diminuer, arrêter. Enfin. Et puis évidemment de lutter contre la sédentarité au long cours. Voilà. Et puis alors ça c'est une demande de réitérée des médecins urgentistes, c'est effectivement d'essayer de faire que notre malade puisse avoir un ECG de référence sur lui. Ça nous rend beaucoup de services. Je pense que ça peut vous en rendre tout autant. Et donc dès lors qu'ils ont un électrocardiogramme de base, eh bien qu'ils puissent l'avoir sur eux, en particulier s'ils ont ces facteurs de risque là. Là, on répète un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure en termes d'algorithme devant l'appel sur douleur thoracique. Ça c'est donc sur l'appel douleur thoracique. Évidemment, cliniquement, se rappeler des diagnostics différentiels et du moyen mnémotechnique. Le contact avec le 15, le contact avec les filières, le test à la trinitrine, oui, mais en sécurité, et puis la troponine avec les risques, et surtout, réellement, si on veut faire une tropo, c'est qu'on pense coronaire, si on pense coronaire, ça va pas être à la maison. Voilà. J'avais deux petits cas cliniques, Et je vais les faire très rapidement. Effectivement, du coup, on ne va pas être très interactif, mais c'est forcément, encore une fois, je vais prendre des pincettes, c'est les malades quand nous, on les voit, c'est-à-dire quand ça s'est mal passé. Tous les autres, ça s'est bien passé. Et donc, je ne peux pas vous en parler. Je suis bien persuadée qu'ils sont largement plus nombreux que mes malades que je vais vous présenter. Le dernier, pourquoi je le mets ? Parce que c'est il y a 2 semaines. Un patient de 47 ans qui est fumeur, qui est à son domicile, qui a mal dans la poitrine depuis 45 minutes, qui appelle son médecin généraliste à 17h. Le médecin est venu immédiatement le voir. Il l'examine et qui tombe sur un patient qui est fumeur, qui a une douleur pas bien typique. Le médecin traitant a une bonne relation avec son cardiologue. Il appelle le cardiologue qui peut le voir dans les 2 heures. Et rendez-vous est pris à 19h. Là. Et à 18h45, l'épouse du patient entend le patient tomber. Il s'est effondré. Il va fibriller 3 fois. Son épouse va le masser. Sur le jeune âge, la fibrillation, ce patient est accepté vers un plateau de chirurgie cardiaque. Donc ce patient ne reprend pas d'activité cardiaque spontanée. Il est monté à cœur massant vers le service de chirurgie cardiaque et il finit par décéder dans la nuit. Encore une fois, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est celui chez qui ça s'est pas bien passé. Mais au final, ce qu'on se dit, c'est que le médecin généraliste a appelé son cardiologue favori, et puis ça tombait bien, il y avait une place dans moins de 2 heures, donc on va lui éviter le passage aux urgences. On a toujours une raison de dire « Ah, les urgences, ça va être long, c'est clair, ça va être long, c'est certain, ça va être long. » Mais ce patient avait des facteurs de risque. On n'a pas d'électrocardiogramme pour lui initialement. Il fibrille, ça se termine mal. Voilà, aussi bien, vous en avez 90% où ça va pas se terminer mal. Forcément, moi, je vais vous montrer celui que j'ai eu. On n'en a pas que un. Je pense qu'effectivement, ce patient était fumeur, ne serait-ce que sur ce facteur-là. Il était licite de ne pas proposer cette prise en charge initiale. Même si je suis bien consciente, que des patients comme ça, vous en aviez 25 par jour. Voilà. Surtout en période de ça tousse, etc. Et le problème est bien entendu le tri. Alors on a le même, alors c'est sur la troponine. Je vais finir. On a le même, là c'était sur la troponine. En fait, on s'en rend compte qu'a posteriori, c'est-à-dire qu'on a un monsieur de 79 ans, fringant patient de 79 ans qui s'effondre à vélo, il est en arrêt cardiaque dans la rue, il aura un seul choc. Les patients n'ont pas voulu masser, les passants, pardon, n'ont pas voulu masser parce qu'ils avaient peur. Ce patient ne sera pas récupéré. Et en fait, on finit par contacter son épouse, puisque sur les décès voies publiques, on essaie d'avoir un contact famille si c'est possible. Et en fait, en fouillant le patient, on se rend compte qu'en fait, il rentrait de la prise de sang pour la troponine, où il est allé à vélo. Un adorable patient, en excellent état général, et il va se faire sa prise de sang comme ça. Voilà. Ça tombait bien, le labo, il était tout prêt. C'est comme ça tombait bien, le cardiologue, il avait un rendez-vous dans 2 heures. Voilà, et encore une fois, voilà, je vous présente des cas forcément biaisés, puisque c'est mon regard, forcément, c'est celui de quand ça marche pas, simplement pour présenter une image de ce qui peut arriver quand ça marche pas.